Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mardi 6 octobre, il est 7h30.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Le quotidien, bonjour à tous, n'est plus le même ce matin pour les habitants de Paris et de sa petite couronne. Mon cher Marc Bourreau, expliquez-nous tout ça.
Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Terminé le café et le croissant au comptoir, les bars baissent le rideau pour au moins 2 semaines. Fermeture maintenue dans les salles de sport, restrictions dans les EHPAD, les universités, les centres commerciaux. La capitale se calfeutre face à une progression de l'épidémie. Mesure de freinage pour le préfet de police de Paris. Mesure insuffisante, lui répond le professeur Gilles Pialoux, l'infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris, redoute une flambée du virus dès la fin du mois, et pour lui, l'État doit revoir sa copie et se recentrer sur les dépistages.
Il manque, par exemple, au niveau national, une politique de dépistage qui soit clarifiée, qui explique quand est-ce qu'on fait un test, quand est-ce qu'il faut refaire un test. Et on n'a pas de politique d'isolement, c'est-à-dire que tout d'un coup, la doctrine de l'OMS qui est isolée, dépistée, tracée, et c'est dans cet ordre-là qu'il faut le dire, elle est plus déclinée. L'isolement est plus décliné, on n'en parle plus. Ce qui est important aussi, c'est que si ça ne suffit pas, de ne pas attendre le 11 novembre pour prendre des mesures qui seront peut-être effectivement du domaine du confinement, qui ne sera pas un confinement national, qui peut être populationnel, qui peut être à l'échelle d'une région.
Le professeur Gilles Pialoux avec Rémi Pfister.
La suite du journal avec vous, mon cher Marc Bourreau.
Et pas de changement de stratégie en revanche pour les salariés. Le maître mot du gouvernement, c'est le télétravail. Piqûre de rappel hier de la ministre du Travail. Elisabeth Borne veut limiter les interactions sociales, l'utilisation des transports en commun dans les zones en alerte maximale, Paris, mais aussi Aix-Marseille où le milieu professionnel représente quasiment un quart des foyers de contamination dans les Bouches-du-Rhône. Alors pour l'instant, pas de mesures coercitives, mais cela suscite des interrogations, Émilie Vallès.
Le protocole sanitaire imposé en entreprise reste inchangé, mais avec ces déclarations du gouvernement sur le télétravail, on reconnaît côté employeur que le message est un peu brouillé. Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH.
On est passé au télétravail recommandé, puis à un gouvernement favorable au télétravail. Maintenant, on est télétravail autant que possible. Bon, c'est des espèces de finesse d'expression qui ne sont pas extrêmement faciles à gérer. Dire autant que possible, est-ce que ça veut dire d'aller jusqu'à 5 jours? C'est pas comme ça qu'on l'interprète. Mais parce que, en l'occurrence, sur ce dossier-là, le gouvernement n'est pas d'une clarté absolue.
Cela dit, cela laisse une certaine souplesse aux entreprises, ce qui n'est pas si mal, poursuit ce DRH. Mais pour Laurent Parra, avocat en droit du travail, si le gouvernement n'impose pas le télétravail, c'est qu'il ne peut pas le faire légalement.
Parce que ce serait contraire à la Constitution. Ça porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, du commerce et de l'industrie. Et si on l'a imposé pendant le confinement, c'était parce que de facto, les gens étaient chez eux et qu'on pouvait pas faire autrement et que les entreprises étaient désireuses de continuer leur activité. Aujourd'hui, les gens ne sont pas confinés et elles estiment qu'on peut faire venir les gens et que c'est plus favorable pour elles puisque les gens seront plus productifs au travail que chez eux.
Au ministère du Travail, on précise qu'il faut qu'un équilibre soit trouvé dans chaque entreprise et que cela doit se discuter au plus près du terrain.
Et pendant ce temps, à l'étranger, aux États-Unis, New York se barricade à partir d'aujourd'hui. 9 quartiers de Brooklyn et du Queens reconfinés, les écoles, les commerces sont porte-close pour tenter d'endiguer une reprise de l'épidémie.
Et évidemment, les États-Unis, pendant ce temps-là, montrent les images de Donald Trump tombant le masque pour son retour à la Maison-Blanche et sa sortie de l'hôpital.
Oui, le plus célèbre malade du Covid est rentré hier soir de l'hôpital militaire de Washington. Retour en fanfare, hélicoptère, musique hollywoodienne et un président non masqué pouce levé sur une vidéo publiée sur Twitter. Le milliardaire encourage les Américains à sortir de chez eux, mais avec prudence, à ne pas avoir peur du virus. Réaction immédiate de son adversaire démocrate Joe Biden en meeting au même moment en Floride.
J'ai vu que le président était sorti et qu'il avait tweeté « Ne laissez pas le virus contrôler vos vies ». Allez dire ça aux 205 000 familles qui ont perdu quelqu'un. Ne laissez pas le virus contrôler vos vies. Franchement, soyez responsables. Portez un masque. Il s'agit de protéger les autres. C'est un devoir patriotique.
Joe Biden, depuis la Floride hier soir, sur le plan médical, maintenant les médecins affirment que Donald Trump va mieux, mais n'est pas encore tiré d'affaire. Parallèlement, la Maison-Blanche prend des allures de cluster. La porte-parole du président est à son tour positive au coronavirus. La présidentielle à l'heure du Covid. On en reparle dans les spécialistes avec Emmanuel Faux dans un instant.
Retour en France, un pas de plus vers le mariage Suez-Veolia.
Engie, principal actionnaire de Suez, a donné son feu vert hier soir pour céder ses parts au géant du traitement de l'eau et des déchets. L'État avait donné un avis défavorable. Bonjour Céline Cajolis.
Bonjour.
Sauf que pour réussir un mariage, il faut que les deux parties disent oui, et ce n'est toujours pas le cas ce matin.
Oui, car pour l'instant, Suez campe sur ses positions. Dès hier après-midi, avant même la vente par Engie, le groupe a expliqué qu'il entrait en résistance et qu'il utiliserait tous les moyens possibles, action en justice, mobilisation des élus, des salariés, tout pour se défendre et pour exiger un traitement équitable des actionnaires, c'est-à-dire pour que tous les titres Suez soient rachetés à 18 euros, comme ceux vendus par Engie, ce que Veolia n'est pas en mesure de garantir. Justement, du côté de Veolia, pour réussir l'opération, on n'a pas le choix. Il faut absolument s'entendre avec Suez pour neutraliser la pilule empoisonnée imaginée par le Conseil il y a 2 semaines et qui met à l'abri, dans une fondation, les activités eau en France pour empêcher la vente prévue par Veolia à un fonds d'investissement, une cession que les autorités de la concurrence vont exiger avant d'autoriser l'opération. Le PDG de Veolia veut d'ailleurs en parler dès aujourd'hui avec son homologue de Suez qui, pour l'instant, n'a pas répondu favorablement.
Merci Céline Cajolis. Les betteraves plutôt que les abeilles, l'Assemblée nationale a tranché cette nuit pour la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes jusqu'en 2023. L'insecticide doit permettre de sauver la filière frappée par une épidémie de jaunisse. Au moins 7 morts en France et en Italie, 72 heures après le passage de la tempête Alex. Une vingtaine de personnes n'ont toujours pas donné de nouvelles. Armées et secours continuent de s'activer dans les villages coupés du monde. Opération très complexe, vous entendrez l'un de ces secouristes dans le journal de 8h.
L'État durcit le ton dans sa lutte contre les certificats de virginité.
Oui, c'est l'une des mesures phares du projet de loi contre le séparatisme. Ces documents sans valeur médicale sont censés garantir la virginité des femmes dont les familles ou les futurs maris réclament une preuve. Pratique qualifiée de dérive religieuse, dégradante, humiliante. Aujourd'hui, certains médecins continuent d'en délivrer et ça va leur coûter cher à présent. 1 an de prison, 15 000 euros d'amende annoncée hier soir du ministère de l'Intérieur. Une sanction nécessaire pour le docteur Israël Nizan. C'est le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français.
Pénaliser correctement la rédaction de certificats de complaisance est une bonne chose. La pratique est devenue de plus en plus rare au fil du temps. Ce texte va faire disparaître complètement cette pratique qui impose à des femmes des gestes humiliants dont la parole ne compte pas puisqu'on va vérifier la véracité de ce qu'elles disent. Mais c'est bien que la loi de la France interdise ce geste.
Des propos recueillis par Éric Koch et nous y reviendrons avec votre invité Guillaume à 8h15.
Gérald Darmanin, il est 7h37, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Merci de nous être fidèles. Dans un instant, Emmanuel Faux va tout raconter. Absolument.